Je vais vous parler du faux comme source de connaissances en histoire à partir du cas d'un faux livre de Galilée, le Messager des étoiles, ou Sidereus Nuncius en latin, paru en 1610. Je vais développer mon propos en 5 parties. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre de Galilée, de Sidereus Nuncius, et l'affaire de faux qui le concerne. Je parlerai ensuite de l'authentification initiale de cet exemplaire et de la caractérisation de sa falsification. Plus spécifiquement, j'aborderai la question de l'unicité de ce faux et ses liens avec les collections dans lesquelles il s'inscrit. Collections d'ouvrages connus et collections d'ouvrages dont on n'a pas encore retrouvé la trace. Par la suite, j'aborderai la question de la réalisation de ce faux avec le travail des faussaires, et en particulier, je viendrai sur le fait que ces faux sont des issues d'entreprises aux multiples ramifications qui dépassent largement la simple fabrication de ces ouvrages. Et je conclurai sur la valeur des faux ouvrages, ici des faux ouvrages scientifiques, pour les connaissances historiques. Alors donc, je vais présenter cet ouvrage, l'original, le Sidereus Nuncius, Paris en 1610, et puis l'affaire de faux, qui est une affaire évidemment tout à fait contemporaine, puisque nous allons le voir, ce faux a été découvert au début des années 2000. Alors voilà, cette affaire, en 2005, apparaît sur le marché un exemplaire tout à fait étonnant de ce Messager des étoiles de Galilée, puisqu'il s'agit d'un exemplaire qui comporte des dessins de la Lune de la main de Galilée. Ce sont des aquarelles, vous le voyez sur l'image. Ce faux apparaît donc sur le marché et il est acheté pour 500 000 euros par une librairie new-yorkaise très renommée en matière de commercialisation d'ouvrages anciens et de cartes anciennes, qui s'appelle la librairie Martha Yanlan, et qui achète cet ouvrage de Galilée à deux marchands italiens, dont un qui est en photo, que vous voyez, qui s'appelle Massimo De Caro. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce marchand de livres anciens, qui est aussi l'un des principaux faussaires. Alors du coup, on va appeler cet exemplaire de Galilée nouvellement apparu le Sidereus Nuncius Martha Yanlan, du nom donc de cette librairie. Alors qu'est-ce que le Sidereus Nuncius? Pourquoi est-ce un ouvrage important en histoire des sciences? Alors d'abord, c'est un ouvrage qui est important parce qu'il est évidemment de la main de Galilée et que Galilée occupe une place très importante dans l'histoire des sciences, pour les connaissances sur la physique et l'astronomie notamment. Et cet ouvrage a ceci de particulier qu'il vient remettre en cause l'approche aristotélicienne de l'univers, c'est-à-dire l'approche selon laquelle la Terre serait au centre de l'univers. Et il donne des preuves à la théorie élaborée par Nicolas Copernic qui nous dit que c'est bien le Soleil qui est au centre de l'univers et donc la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors ce Sidereus Nuncius, il a été donc écrit par Galilée en quelques semaines, il a participé à son impression et on sait, à partir des connaissances historiques dont on dispose, qu'il existe aujourd'hui 550 exemplaires qui ont été imprimés avec des schémas réalisé sous forme d'eau-forte. Aujourd'hui, nous disposons de 82 exemplaires authentifiés et répertoriés, mais on sait également qu'il a été fabriqué 30 exemplaires en première édition qui ne comportent pas d'eau-forte, mais dans lesquels Galilée a souhaité laisser des espaces pour faire lui-même les dessins à la main avec des aquarelles et pouvoir offrir ces exemplaires particuliers à ses mécènes et amis. Et donc ce nouveau exemplaire de Galilée apparu en 2005 serait l'un de ces 30 exemplaires de première édition, voire même un exemplaire d'épreuve, on va le voir. Alors comment se présente ce nouvel exemplaire retrouvé, qui apparaît un peu miraculeusement sur le marché? D'abord, il est inséré dans une reliure dorée datant du XVIIe siècle et il fait partie d'un ensemble de 5 traités de la main de Galilée. Il comporte quelques éléments particuliers. Le timbre du prince Federico Chiesi, qui est le fondateur d'une des premières académies scientifiques et intellectuelles, qui s'appelle l'Académie des Lynx. On voit sur la page de titre apparaître la signature de Galilée, signature manuscrite. Et puis, évidemment, il comporte ces fameux dessins de la Lune réalisés au lavis brun. Alors, je vais aborder maintenant la question de l'examen de ce nouvel ouvrage qui apparaît sur le marché du livre ancien et voir comment on a tout d'abord procédé à son authentification puis ce qui va amener à remettre en cause son caractère authentique et à prouver son caractère falsifié. Alors évidemment, cette librairie Martha Yenland, quand elle a entre ses mains cet ouvrage et qu'elle l'acquiert pour une somme importante, elle va le faire examiner par des spécialistes reconnus de ce type d'ouvrage. Elle va faire appel à Horst Bredekamp, qui est un historien de l'art, spécialiste du dessin et en particulier de ses usages dans la production d'ouvrages scientifiques, qui va se travailler sur l'ouvrage, expertiser cet ouvrage avec une équipe d'experts internationaux. Ils vont analyser le papier, l'impression, les encres, le dessin, et ils vont le faire dans un laboratoire très connu à Berlin, qui s'appelle le Kupfer Cabinet, qui est un laboratoire spécialisé dans l'analyse de dessins et qui est adossé à un ensemble de collections permettant de travailler dans les meilleures conditions sur ce type d'objet. Ce laboratoire est également équipé de moyens techniques très avancés et mis à jour régulièrement. Cette première expertise va donner lieu à des publications qui sont citées et qui attestent donc du caractère authentique de ce nouvel exemplaire du Sidereus Nuncius. Cette authentification va avoir un effet immédiat sur la valeur de cet ouvrage puisqu'il va être estimé à 10 millions de dollars, ce qui est une somme extrêmement importante pour un ouvrage scientifique. Si vous allez par exemple sur le catalogue en ligne de la librairie Martha Yenland, vous verrez des ouvrages qui atteignent plusieurs milliers, dizaines de milliers de dollars, mais des sommes dépassant le million de dollars, cela reste relativement rare. Mais un historien des sciences britannique, Nick Wilding, émet des doutes sur l'authenticité de cet exemplaire apparu miraculeusement. Alors, il n'aura jamais l'ouvrage entre ses mains. Il va travailler d'une certaine façon à distance. Il va s'intéresser, au-delà des caractéristiques matérielles de l'ouvrage, à sa provenance, aux espaces dans lesquels il a circulé avant d'arriver sur le marché du livre, et puis à son contexte de découverte. Et il va écrire à l'un des scientifiques spécialistes du livre ancien, Paul Needham, qui a initialement authentifié l'ouvrage. Il va lui écrire et lui faire part de ses doutes sur un certain nombre d'éléments matériels sur lesquels nous allons revenir dans la suite de cette conférence. Ces doutes, il va les rassembler, les synthétiser, les présenter dans une conférence à la Bibliothèque nationale de France, et cette conférence fera l'objet d'une publication qui s'appelle Faussaire de Lune. Donc, les doutes émis par Nick Wilding vont être jugés tout à fait pertinents par Paul Needham, qui pourtant, historien spécialiste du livre ancien, a contribué à l'authentification initiale de cet exemplaire du Sidereus Nuncius. Ces doutes et les réactions qu'ils vont susciter vont donner lieu à une controverse entre historiens de l'art, dont Horst Bredekamp, et historiens des sciences, dont Nick Wilding en particulier. En réaction, l'équipe de Bredekamp va se remettre au travail dans le même laboratoire pour réexaminer l'ouvrage et débusquer éventuellement la falsification. Ils se remettent donc au travail dans leur laboratoire à Berlin, et finalement vont aboutir à la conclusion qu'il s'agit bien d'un faux. Il s'agit finalement d'une entreprise de rétractation collective qu'ils vont publier sous la forme d'un ouvrage paru aux éditions Zone Sensible et qui s'appelle donc SNML, Anatomie d'une contrefaçon. Donc quand on tombe sur un faux ouvrage, on a tendance à penser qu'il faut l'étudier comme un cas unique et se concentrer sur ses caractéristiques. En fait, je vais montrer que pour pouvoir caractériser une falsification, il faut la réinscrire dans l'ensemble des collections de livres similaires ou de la même période dont on a déjà connaissance. Voici quelques éléments sur l'expertise matérielle de cet exemplaire unique qui va permettre de montrer que c'est un faux. Je précise que l'équipe de Horst Bredekamp se remet au travail en sachant cette fois, en ayant en tout cas la conviction qu'il s'agit d'un faux. Lors du premier examen d'authentification, ils étaient persuadés qu'ils avaient entre les mains une découverte absolument magnifique et qu'il s'agissait bien d'un exemplaire de Galilée écrit et produit au début du XVIIe siècle. Cette fois-ci donc, ils vont travailler tout d'abord en comparant cet exemplaire du Sidereus Nuncius avec des exemplaires authentiques déjà authentifiés. Ils vont le comparer également à des faux de ce même ouvrage identifié et à des facsimilés. Et ceci montre bien qu'on travaille bien sur un ouvrage unique, mais en le réinscrivant dans un ensemble de collections et dans un ensemble de connaissances déjà bien établies. Tous ces exemplaires sont détenus à différents endroits, en particulier dans des bibliothèques universitaires américaines, mais également à la bibliothèque de Brera, pour ce qui est du facsimilé. Donc il y a ce travail de comparaison, et il y a aussi un travail qui mobilise un ensemble de techniques scientifiques, donc en particulier la lumière transmise, la microscopie, la fluorescence, les rayons X, entre autres, et puis on va le voir, des analyses invasives du papier. Tous ces éléments vont permettre de réexaminer le livre et d'essayer de trouver ce qui permet de le différencier des ouvrages authentiques qui ont déjà été authentifiés. Alors, l'un des premiers examens va porter sur les techniques d'impression, car c'est là-dessus que Nick Wilding a émis en tout premier lieu des doutes. Tout d'abord, le papier comporte des marques des lettres très profondes. Or, ces marques très profondes ne sont pas la preuve de l'utilisation de caractères moulés en plomb, comme on le faisait à l'époque de Galilée, mais plutôt de l'utilisation de plaques polymères et de techniques de photogravure modernes. Ensuite, les chercheurs vont mesurer les distances entre les pages et se rendre compte que l'écart est constant. Or, il s'agit là aussi d'une preuve de contrefaçon, puisque l'écart des ouvrages de cette époque, pour des raisons techniques de réalisation de l'impression, n'est jamais constant. Rappelons simplement que l'écart est ce qui sépare les deux pages et le début d'impression de chaque ligne du texte. La suite de l'examen va porter sur le texte en lui-même et tout d'abord sur les mots. Les experts se rendent compte qu'il y a des erreurs dans l'orthographe de certains mots et en particulier sur le mot authentique qui s'écrit en latin periodis et qui dans ce faux exemplaire est systématiquement orthographié en pepiodis qui signifie faux. Ensuite, certaines lettres comportent des défauts qui sont systématiquement présentes dans l'ensemble du livre et qui, pourtant, ne sont pas présentes dans les exemplaires qui seront imprimés successivement et dont on a la connaissance aujourd'hui. En particulier, ces fameux exemplaires qui comportent des eaux-fortes et qui ne sont donc pas des exemplaires d'épreuve. Et ces exemplaires-là, normalement, sont fabriqués à partir des exemplaires d'épreuve. Alors, ces défauts sur les lettres sont flagrants puisque, vous le voyez, il s'agit de tâches et de lettres qui sont abîmées, c'est-à-dire dont on peut supposer que le caractère en plomb a été abîmé et n'a pas été changé au cours de l'impression. Autre élément qui va attirer l'attention des experts avec un examen rapproché, c'est le tampon qui est porté sur la première page du livre et qui est le tampon du prince Federico Chiesi. Alors, on a d'abord le tampon initial, le tampon initial qui est issu d'ouvrages dont on sait qu'ils sont authentiques et qui comporte un certain nombre de petits défauts. Et là, ce que constatent les experts, c'est que le tampon qui figure sur ce nouvel ouvrage découvert est similaire exactement à celui qui figure sur un fac-similé. De même pour la signature, elle est strictement identique à la signature figurant sur un fac-similé. Alors en matière de signature, il faut savoir que les signatures manuelles ne sont jamais complètement identiques d'un ouvrage sur l'autre. Même si elles gardent les mêmes principales caractéristiques, on peut se rendre compte de différences dans la façon d'appuyer sur la plume, parfois dans un manque d'encre, donc avec parfois des petits blancs, ce type d'irrégularité. Alors ceci permet aux experts d'identifier le fac-similé à partir duquel le ou les faussaires ont travaillé. Examen suivant, le papier. Alors ce papier est identifié comme suspect assez rapidement parce qu'il comporte plusieurs défauts importants. D'abord, il comporte des ondulations, un peu comme s'il avait été humidifié et séché. Ensuite, il comporte aussi un certain nombre de grains et de taches qui, pour certaines, apparaissent très régulières, ces taches. Il paraît également vieilli artificiellement avec des irrégularités qui paraissent imitées. Alors, paraissent imitées, pourquoi ? Parce qu'on le compare à des exemplaires authentiques et on le compare aussi à des faux de très bonne facture, mais sur lesquels on repère exactement le même type de défaut. Dernier élément, Les experts vont procéder à une analyse invasive, c'est-à-dire qu'ils vont prélever des fibres du papier pour analyser sa composition. Et là, ils vont se rendre compte évidemment qu'il s'agit d'un papier de fabrication contemporaine, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas les mêmes fibres de tissu que ce qui était utilisé à l'époque de Galilée. Alors, on peut se demander pourquoi, à ce stade, ces éléments n'ont pas été identifiés lors de la première authentification, lors du premier examen qui avait permis à Bredekamp et son équipe de statuer sur l'authenticité de l'ouvrage. Alors, plusieurs raisons expliquent ceci. La première, c'est que, comme ils étaient persuadés de détenir un ouvrage authentique, ils ont préféré ne pas faire d'analyse invasive, donc ne pas prélever de petits morceaux de papier. Ensuite, comme ils étaient persuadés d'avoir en main un ouvrage authentique, eh bien, ils ont prêté peu d'attention à ces détails dans les ondulations, les taches, les défauts du papier. Dernier élément à examiner, le papier. Alors, on sait de source sûre que les ouvrages à cette époque, et en particulier tous les exemplaires authentiques du Sidereus Nonsus dont on dispose, sont constitués à partir de feuillets qui ont été pliés en quatre pour constituer les pages. Et là, en examinant de près ce nouvel exemplaire, les experts s'aperçoivent qu'il est composé de feuilles qui résulte du pliage de deux feuillets seulement. Et ceci est encore une preuve supplémentaire qu'ils ont entre les mains un ouvrage falsifié. Une fois qu'on a ces preuves matérielles de falsification, il reste à comprendre comment une falsification qui reste quand même d'une facture excellente, puisqu'elle a permis dans un premier temps de tromper une équipe d'experts reconnus, il reste à savoir comment ce faux ouvrage a été fabriqué. Et à comprendre aussi qu'il n'est pas le fait de l'œuvre d'un seul faussaire, mais qu'il s'agit bien d'une entreprise aux multiples ramifications. Nous allons le voir. Alors, on a souvent, lorsqu'on est face à des faux, que ce soit des faux dans la peinture ou dans d'autres domaines artistiques, historiques, littéraires, on a souvent l'image de quelqu'un qui travaille seul dans son atelier et qui déploie un certain nombre d'habiletés, voire qui est lui-même un génie. Alors je fais ici référence à un exemple très connu, hein, celui du peintre faussaire Wolfgang Beltracchi, très connu, qui, avec sa femme, a réalisé et commercialisé un certain nombre de faux tableaux, donc des Ernst, Campedonk, Léger, Van Dongen, entre autres, qui a été appréhendé. Alors il a écopé de 6 ans de prison et de 20 millions d'euros de dommages et intérêts, mais il a par la suite repris une carrière de peintre et il a fait l'objet de nombreux ouvrages et reportages dans lesquels les positions sont souvent assez ambivalentes. Hein. D'un côté, la condamnation de ces faits, mais de l'autre, une certaine fascination pour cette capacité à tromper le monde de l'art, les experts et les marchands. Alors, du côté de notre affaire, eh bien, le faussaire, en tout cas celui qui est la tête de pont de cette entreprise de faux, eh bien, n'est autre que le vendeur, celui qui a vendu cet exemplaire du Sidereus Nonsus à la librairie Martha Yenlan, c'est Massimo De Caro. Alors, lui, nous allons revenir sur son parcours et montrer en quoi il ne s'est pas arrêté à cette affaire et qu'il a en fait commencé sa carrière de faussaire bien avant. Alors, Massimo De Caro, pour cette affaire, entre autres, écopera d'une peine de 7 ans de prison, il en fera 4 dans la réalité, et il sera condamné pour le vol, la commercialisation de milliers d'ouvrages anciens en Espagne, en Italie, vers l'Allemagne également. Il sera également condamné pour la contribution à la fabrication de faux, mais il fera aussi l'objet, comme Wolfgang Beltracchi, d'un certain nombre de reportages, d'un certain nombre de publications. Et il dira toujours aux journalistes et aux spécialistes qui viendront l'interroger qu'il a cherché à gruger les experts et les académiques et que par ailleurs, il a toujours été fasciné et qu'il a toujours beaucoup apprécié Galilée. Il avait d'ailleurs commencé sa carrière en se présentant comme spécialiste de Galilée en obtenant un diplôme d'ailleurs usurpé en histoire des sciences et des savoirs. La constatation du faux par l'équipe d'experts amenée par Bredekamp avec les arguments de Wilding va les amener à dire que ce faux est l'œuvre d'une véritable équipe composée d'artisans se déployant sur un réseau international et qui a mis en œuvre un ensemble de compétences, de savoir-faire extrêmement complexes et complémentaires. Donc il ne s'agit pas de l'œuvre d'un seul homme qui serait Massimo De Caro. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Eh bien, si on remonte le réseau et la circulation de ce livre, il s'inscrit dans un ensemble de méfaits qui sont bien ceux de Massimo De Caro et de son acolyte. Alors d'abord, Massimo De Caro, il a commencé par apprendre le métier de faussaire auprès d'un faussaire argentin. Et puis, c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un certain nombre de passe-droits en Italie grâce à des connaissances pour accéder à des bibliothèques et en particulier à des collections difficilement accessibles, notamment à la bibliothèque du Vatican. C'est là qu'il a subtilisé un certain nombre d'ouvrages ou des pages d'ouvrages et qu'il a commencé à les perfectionner son art de faussaire en les remplaçant. Il a remplacé ses pages en particulier par des pages de sa réalisation. Et puis, toujours par connaissance interposée, il a réussi à se faire nommer directeur général de la bibliothèque des Hiéronymites de Naples, qui est très connue. Et sa nomination, d'ailleurs, avait suscité de fortes réactions et des pétitions de la part d'intellectuels, d'historiens et de spécialistes en Italie, parce qu'on avait constaté très rapidement que les ouvrages si dégradés ne faisaient pas l'objet de soins et surtout qu'un grand nombre d'ouvrages disparaissaient d'une manière surprenante. Par ailleurs, on a su aussi que Massimo De Caro a bénéficié des appuis au plus haut niveau du gouvernement italien, puisqu'il a eu en particulier des relations avec Marcello Dell'Utri, qui était un ministre de Berlusconi et qui a été condamné en particulier pour son implication dans des entreprises mafieuses. Donc, c'est avec cet ensemble de connaissances, de compétences, si l'on peut dire, que Massimo De Caro a réussi la réalisation de ce faux qui a quand même berné un ensemble d'équipes de spécialistes parmi les plus reconnus dans le monde du livre ancien. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que fabriquer un faux ? Eh bien d'abord, ce qui est très important quand on regarde la fabrique du faux, eh bien c'est le rôle des collections. Alors je vous ai dit que les collections étaient évidemment utilisées par les experts qui cherchaient à savoir s'ils avaient entre les mains un ouvrage authentique ou faux. Mais ces collections, elles sont bien évidemment également utilisées par les faussaires. Ils consultent les exemplaires existants, les facsimilés, et c'est à partir de là qu'ils travaillent pour essayer de fabriquer un ouvrage qui va berner les experts et pouvoir être commercialisé comme un ouvrage authentique. Alors ceci alimente ce qu'on peut appeler la spirale experts et faussaires, puisque à mesure que les experts perfectionnent leur technique, les faussaires apprennent de ces techniques pour intégrer ce qu'elles peuvent débusquer dans leur pratique de falsification, et réciproquement, lorsqu'ils identifient un ouvrage falsifié, eh bien les experts s'appuient sur les caractéristiques matérielles identifiées, sur les modalités d'examen qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre pour mieux connaître les pratiques des faussaires. Qu'est-ce que c'est que contrefaire ? Quand on regarde ce fameux exemplaire du Sidereus Nuncius, on voit qu'il vient compléter d'une certaine façon un manque dans une collection d'ouvrages déjà authentifiés. Jusqu'ici, on ne disposait pas d'un exemplaire d'épreuve du Sidereus Nuncius avec ces fameux dessins de la main de Galilée. Et c'est en ça que lorsqu'il apparaît sur le marché, cet ouvrage comportant des aquarelles de la main de Galilée est complètement fascinant et il produit finalement une sorte d'aveuglement chez la première équipe d'experts qui va l'examiner parce qu'on ne dispose pas d'un tel exemplaire dans les collections des bibliothèques et des laboratoires à ce jour. Dans le travail des faussaires, il y a aussi une pratique qui consiste d'une certaine façon à brouiller les cartes entre ce qui est faux et ce qui est authentique. Ça, on peut le voir par exemple avec un certain nombre des caractéristiques matérielles qui sont réalisées de manière à se rapprocher autant que possible de ce que l'on sait être authentique, tout en gardant aussi un certain nombre de différences. Alors pour clarifier mon propos sur ce point, je reprends la signature, hein, la signature manuscrite, c'est quelque chose, je vous l'ai expliqué, qui ne doit pas être strictement identique d'un exemplaire à l'autre. Et c'est par exemple là-dessus que le faussaire sur cet exemplaire a commis une erreur, puisqu'il a reproduit exactement une signature. Sur d'autres aspects, eh bien, les faussaires s'appliquent évidemment à restituer des traces d'usure, des taches, des défauts dans les lettres qui étaient tout à fait courantes et communes dans les livres dont on a déjà authentifié la provenance et dont on a déjà prouvé le caractère authentique. Alors, le fait de jouer justement sur cet ensemble de caractéristiques et sur des liens possibles avec également des collections fait que cela rend très difficile l'identification de ces faux. Et donc, il y a une forme de jeu sur la singularité, de jeu sur les liens avec des collections qui est la pratique courante en fait des faussaires. Alors, que font les faussaires lorsque, justement, ils utilisent cet ensemble de détails, que ce soit des défauts ou lorsqu'ils essaient de créer un exemplaire qui, pour le moment, n'a jamais été identifié dans les collections, dans les archives dont on dispose? Eh bien, ils essaient de rendre très, très difficiles les comparaisons possibles avec, justement, ces ouvrages et ces collections dont on dispose déjà. Alors pour conclure, j'aimerais venir sur l'importance du travail sur les faux qui sont identifiés et sur le fait qu'il est extrêmement crucial de déplier les expertises et les analyses jusqu'au bout, en particulier pour la solidité des connaissances historiques et historiographiques. D'abord, l'élaboration des connaissances historiques repose de longue date sur l'examen, l'identification d'écrits apocryphes. On le trouve dans le domaine littéraire et dans tous les domaines historiques à partir du moment où se développe une culture de l'écrit. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que quel que soit le faux réalisé, les faussaires le font toujours en ayant en tête les repères d'évaluation, d'expertise en vigueur dans le marché et dans les domaines académiques qui sont concernés. Par exemple, dans le cas de ce Sidere Consensus, un point important de contexte, c'est que le livre historique ancien fait l'objet depuis le mi-temps des années 2000 d'un marché spéculatif qui a contribué à fortement augmenter la valeur des ouvrages anciens et à susciter énormément d'engouement de la part de collectionneurs. Alors, l'identification de ces faux est aussi très importante, d'abord pour que les experts puissent confronter leur savoir, leurs compétences, leurs connaissances, mais aussi qu'ils contribuent aussi à la solidité des connaissances historiques des champs académiques qui sont les leurs. Ces éléments permettent aussi de constater des conceptions très différentes de l'authenticité. On l'a vu entre les historiens de l'art et les historiens des sciences. Les historiens de l'art, par exemple, commencent par travailler sur des éléments qui ont trait au dessin, c'est le cas de Bredekamp, alors qu'un historien des sciences comme Nick Wilding va davantage travailler, en premier lieu, sur des caractéristiques matérielles qui ont trait, par exemple, à l'impression, on l'a vu, entre autres choses, à la qualité du papier, à des éléments qui relèvent, à proprement parler, du texte et de ses modalités de réalisation. Ces cas de faux sont aussi très importants parce qu'ils contribuent pleinement à une histoire qui ne soit pas simplement une histoire du texte comme attestant d'une vérité scientifique, mais aussi d'une histoire sociale, matérielle, politique, également des sciences et du livre. Et enfin, pour terminer, j'aimerais revenir sur le fait que ces ouvrages s'inscrivent dans un patrimoine des savoirs, un patrimoine des connaissances, un patrimoine historique. Et j'ai parlé du fait que Massimo De Caro avait détourné, commercialisé des milliers de livres anciens et que la question se pose en Italie comme ailleurs de la sauvegarde de ce patrimoine et que cette sauvegarde est essentielle parce que sinon, évidemment, il s'agit d'une perte énorme pour nos connaissances scientifiques et pour les connaissances historiques en général. On dit souvent que les faussaires signent leurs œuvres, hein, que d'une certaine façon, ils laissent toujours des traces de ce qu'ils ont fait. Et dans le cas de Massimo De Caro, une des traces qu'il aurait laissées, c'est justement cette fameuse erreur, qui serait donc volontaire, dans l'impression des mots, et en particulier dans cette impression du mot « pepiodis », qui signifie « faux », à la place du mot periodis qui signifie authentique. Alors ça paraît tout à fait plausible puisqu'il s'agit de la réalisation d'un faux ouvrage, mais c'est très difficile de savoir si c'est intentionnel ou pas, parce que l'on sait à partir de toutes les interviews auxquelles a répondu Massimo De Caro, à partir de des reportages qui ont été faits sur lui, des livres également, on sait que c'est un affabulateur, hein, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir et se délecte de tromper ses interlocuteurs. Donc c'est vraiment difficile de savoir s'il s'agit d'une erreur volontaire ou si au contraire il s'agit d'une omission, parce que quand on constate la complexité de la réalisation de ce faux, on peut bien imaginer qu'il y a eu quelques ratés de la part du faussaire, aussi habile soit-il.